On passe à la partie débat. Alors, oui, il y a déjà une question, mais je vais quand même poser ma question qui renvoie à ce que j'avais dit au départ. Je résume à ça en disant maïeutique et massif. Pour moi, la maïeutique, c'est très important, le dialogue entre les professeurs et les élèves entre eux. À l'École des Mines, il y a un cours qui a un succès extraordinaire qui avait légué Bruno Latour, qui est le cours sur les controverses. Mais c'est une petite école. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est plus facile à organiser que quand il y a des milliers d'étudiants. Alors, j'avais vu dans l'article de Philippe Durand, je crois qu'il y avait une université qui tirait au sort les étudiants qui avaient le droit de poser des questions aux profs. Bon, c'est une conception de la maïeutique un petit peu limitée. Et je suis intéressé de ce que disait Dominique Boulier en parlant d'incarnation, d'échange, de dialogue. Avec combien d'étudiants arrivez-vous à faire ça? Alors d'abord, Philippe Durand, donner des précisions sur les heureux élus qui ont le droit de poser des questions aux professeurs.
Oui, je confirme. Bon, c'est anecdotique, mais c'est arrivé dans une université. 10 étudiants avaient le droit, alors tirés au sort, avaient le droit de rencontrer l'enseignant lui-même en chair et en os. Ça faisait très Star System. C'était vraiment, oui, le toucher, le voir, quoi. Dire oui, il existe derrière la machine, il y a vraiment quelqu'un. Voilà, c'était ça. Mais ça concernait que 10 personnes sur 10 000 ou 100 000.
La question du nombre, effectivement, est cruciale, mais elle est directement liée aux moyens qu'on y met. C'est-à-dire que dans nos cours expérimentaux là, que l'on mène, on est en général avec des groupes jusqu'à 40. Moi, j'ai des cours sur lesquels je fais des choses très expérimentales aussi, je vous raconterai si vous avez envie, mais enfin, ils montent jusqu'à 80. Et puis, en dehors de ça, quand on veut faire des choses un peu plus vastes, y compris dans la lignée de ce que Bruno Latour faisait, où on fait faire des blogs, etc., et des suivis d'actualité, on est monté jusqu'à 600, 800. Hein, donc, on peut le faire, mais à condition d'avoir les personnels qui encadrent derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas le prof qui peut faire tout. Donc, à ce moment-là, il est obligé d'avoir toute une équipe et d'avoir un travail de suivi. Oh bah écoutez, en général, si par exemple quand on faisait produire des blogs dans le cours qui s'appelle Humanité scientifique, qui en l'occurrence va être en ligne en anglais dans le MOOC que Bruno Latour fait le 10 février, si ça vous intéresse, eh bien ce cours-là a été donné, mais il a été complètement refait là par contre, il était donné en présentiel pour 800 étudiants à peu près, et donc nous avions quand même des moniteurs qui pouvaient encadrer 100 étudiants chacun. Donc, parce que s'il y avait la production n'était pas aussi massive quand même, mais ça veut dire qu'il y avait quand même des gens qui tenaient des blogs d'actualité, donc qui toutes les semaines pouvaient être, on scannait un peu la production, et puis on envoyait des retours. Là, on va faire la même chose d'ailleurs sur le blog, les étudiants seront aussi. Par exemple, il a fallu complètement innover sur la plateforme elle-même, parce que techniquement, on n'arrive pas à faire, c'est ça qui est triste pour des MOOC, on n'a pas les supports réellement faits pour gérer des grosses productions en masse, justement, d'étudiants qui arriveraient et placeraient des documents sur lesquels ils ont travaillé. Donc, vous pouvez mettre que des liens vers d'autres supports, vous ne savez pas où ils les hébergent, etc. Donc, s'il peut poser d'autres problèmes, ça peut être une solution, mais ça veut dire qu'il faut que vous ayez un autre serveur éventuellement pour assurer tout cela. Donc, vous voyez, l'architecture d'une plateforme elle-même est soi-disant faite pour la masse, mais faite pour la masse, pour la diffusion. Dès qu'il s'agit de faire de la contribution, eh bien là, techniquement, il y a un vrai challenge qui n'est pas du tout du même niveau. Et on peut dire, oui, il y a un forum et puis les gens discutent. Oui, ils discutent tout seuls. D'accord, bah avec ça, vous êtes sûr que c'est sympathique. Quoi. C'est sympathique. On est quand même au degré zéro quoi, de l'animation pédagogique. Vous mettez des tuteurs, très bien, mais comment vous gérez les fils de discussion, comment vous organisez tout cela, ça suppose une scénarisation même de l'interactivité, bien entendu, et d'être capable de tenir la charge de 50 000 personnes. Bon, on ne va pas avoir dans les MOOC français, on n'aura pas 50 000 personnes, donc ça va, mais quand même, c'est quelque chose d'autre. Et là, les choix techniques vous disent ce qui est rendu possible, et c'est important de faire ces choix-là dès le départ.
Claude Rivine, professeur à l'École des Mines de Paris. J'ai été passionné, mais en même temps perplexe. Parce que aucun des orateurs n'a fait distinction par matière enseignée et par niveau de l'auditoire. Je m'explique, enseigner la table de multiplication dans le primaire, il me semble que ça se prête tout à fait à une mécanisation, parce que le vrai et le faux sont clairement distincts, etc. Monsieur Kaplan a dit, dans le supérieur, ça paraît être le point de départ. J'ai des doutes, parce que le supérieur, c'est le lieu du doute, c'est le lieu de l'admiration, de l'école, une sorte de civilisation qui se transmet. Tandis que dans les petites classes, je dis boum, c'est comme ça. Bon. Donc, question de matière. Matière et de niveau. Enfin, j'ai une question plus générale. Est-ce que c'est une révolution comparable à l'imprimerie ou est-ce que c'est une modalité mineure de ce qui s'est passé quand est apparue la télévision, le cinéma, la radio, c'est-à-dire des moyens de diffusion de masse? Je songe au fait qu'aujourd'hui, un Français moyen passe 4 heures par jour devant la télévision. Et les gosses, c'est encore pire. 4 heures par jour, c'est inouï, invraisemblable. C'est une imprégnation totale. Cela dit, est-ce que ça a changé la face de la civilisation française? Peut-être, mais je n'en ai pas de mesure vraiment satisfaisante.
D'une part, quand je parlais du supérieur, je disais c'est là que, d'un point de vue industriel, c'est là que ça commence, c'est-à-dire c'est là que ça prend. Je n'ai pas forcément dit que c'était idéalement là que ça devait démarrer. Cependant, je pense que vous n'avez pas raison de penser que dans les petites classes, c'est mécanique. Je pense qu'un enseignant dans les petites classes se serait déjà levé en colère en disant « mais non, vous n'avez rien compris ». Donc, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas plus vrai en réalité, ni moins dans les petites classes que dans les grandes, parce que l'enseignement, c'est plein de choses à la fois. Mais je pense qu'on a tous dit de ce point de vue-là que le premier modèle de diffusion d'un cours juste éventuellement un petit peu organisé, n'avait pas grand-chose d'intéressant à dire d'un point de vue à nouveau pédagogique. Éventuellement, moi je dis, il a peut-être un truc intéressant à dire comme préemption d'un territoire, comme préemption économique d'un territoire sur lequel ce sera plus difficile de venir en tant que concurrent plus tard quand on aura trouvé des modèles pédagogiques un peu plus intéressants, mais pas plus que ça. Mais attention, le contresens que l'on fait régulièrement à nouveau à propos des outils de communication numérique, c'est de penser que c'est juste d'autres outils de diffusion. Et beaucoup de médias, beaucoup d'industries ont fait ce contresens à leurs dépens. On le sait, et probablement vous l'enseignez dans un certain nombre de cours aujourd'hui, en disant « ah ben oui, mais alors on ne s'est pas rendu compte qu'on avait considérablement abaissé les barrières à l'innovation, que des concurrents pouvaient venir d'un peu partout, que les utilisateurs jouent un rôle tout à fait différent, qu'ils participent à la création de valeur, et quitte à ce qu'elles soient éventuellement capturées, etc. etc. » Et la puissance du numérique, y compris celle qui permet quand même d'essayer, si la technique suit, de passer à l'échelle, c'est de pouvoir s'appuyer sur le fait que les gens peuvent faire des choses ensemble et ne sont pas seulement à chercher à recevoir un cours. Si c'était juste recevoir un cours, on serait effectivement... On a cité dans un exercice de prospective de l'an dernier, André Malraux, quand il était ministre de l'Éducation, qui parlait de l'enseignement à la télévision en disant la même chose que ce qu'on dit aujourd'hui sur le numérique. Rendez-vous compte, c'est formidable. Les élèves vont cesser de s'emmerder à l'école et puis le professeur sera plus qu'un accompagnateur de la connaissance. Ça a 40 ans, hein, cette citation-là. Bon, voilà, vous la mettez dans la bouche de la plupart des innovateurs dans le monde du numérique aujourd'hui. Ils disent un petit peu la même chose. Donc, tant qu'on pense que c'est de la diffusion, c'est la même chose. Si on commence à dire « ah ben non, il y a peut-être d'autres régimes de production, d'acquisition ou de lien entre production et acquisition de connaissances », à ce moment-là, les choses changent d'une manière peut-être un petit peu plus profonde.
Oui, je pense que vous avez raison de souligner que précisément dans ces logiques de masse, on évite de préciser les publics auxquels on s'adresse et que là, on fait une grosse erreur, quoi. Parce qu'à ce moment-là, de fait, on s'adresse à un public, malgré tout. C'est-à-dire qu'on le cible sans le dire. Et c'est précisément ça qui est le problème de la masse, comme on a dans le broadcast et dans la diffusion de masse. On vous dit c'est pour tout le monde, du divertissement pour tout le monde à la télévision. À votre avis, ça aboutit à quoi? Il y a un petit peu le tableau. Donc au bout du compte, vous voyez, le résultat, c'est jamais pour tout le monde. C'est-à-dire que vous avez des logiques d'audience. Donc c'est pas ce qu'il y a de meilleur du point de vue de l'adaptation à des publics différents. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher la masse. Mais évidemment, il faut pouvoir être capable de spécifier un peu plus et donc, du coup, de réinventer les méthodes en fonction des publics. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Nous, il se trouve qu'on a adopté une méthode à Sciences Po qui consiste à dire on fait nos MOOC à l'entrée du bachelor, enfin après le bac, quoi, pour donner aux gens une idée de ce qui se fait à Sciences Po, quoi. Et puis tu leur donnes éventuellement envie, et puis comme on est internationaux, effectivement c'est intéressant d'en faire un en anglais pour que les gens soient un peu au courant de ce qu'on fait. Là il y a une côté publicité, clair, hein, c'est de vendre notre marque, évidemment, il faut l'admettre, ça sert à ça, diffusion de masse. Ok, allons-y, faisons-le. Mais si vous voulez, ça a des contraintes, c'est-à-dire que clairement les cours qui étaient faits, eh ben, ils ont été... raboter sur un certain nombre de choses pour être sûr de viser quand même ce public-là. Alors, je dis raboter, mais ça veut dire réinventer en réalité. Je suis honnête, c'est plutôt raboter pour le moment. Ça devrait être réinventé, mais pour le moment, c'est un peu raboter seulement. Donc c'est le degré zéro, si vous voulez, de l'adaptation, le degré minimal, pardon, pas zéro quand même, mais minimal de l'adaptation au public. Et pour cela, il y a quelque chose d'autre, effectivement, à faire. Sur la révolution que vous évoquez par rapport à l'imprimerie, c'est certainement pas les MOOC, mais le numérique, oui, je suis d'accord, c'est une révolution analogue à l'imprimerie. Ça, d'accord, je suis entièrement d'accord, on pourrait en discuter longtemps, mais le MOOC lui-même est vraiment une goutte d'eau dans l'affaire, si vous voulez. Et c'est certainement pas celle qui va changer grand-chose de ce point de vue-là. Mais il est évident que ça modifie de la même façon que l'extension de l'imprimerie fait disparaître un certain nombre d'autorités, et parce que ça permet l'échange et la confrontation des savoirs, parce que vous avez à disposition en même temps tous les livres et toutes les versions éventuellement, alors qu'avant il fallait les chercher dans les abbayes, que d'autre part il y a beaucoup de gens qui peuvent se mettre à écrire alors qu'auparavant on avait juste les scribes qui pouvaient le faire, etc. Ça change complètement l'économie de la connaissance, et du coup l'économie de la connaissance, les modes de production, parce qu'y compris l'imprimerie étant le premier de ces modes de production-là. Donc c'est vrai que ça change beaucoup de choses, et là je pense que ce qui est en cause et ce qui a changé, c'est l'élévation générale du niveau d'éducation quand même dans le monde. Ça, et là on voit bien que ça a déstabilisé les autorités en général, et le numérique amplifie ça. Le numérique, justement, en termes d'amplification, c'est un terme d'Elisabeth Einstein quand elle parle de la révolution de l'imprimé. Et effectivement, c'est bien ça. C'est de l'amplification, mais ça amplifie le pire et le meilleur. Donc, bah, oui, et ça amplifie notamment le fait que les autorités sont toutes remises en cause actuellement, notamment dans l'enseignement aussi, parce que vous avez à côté Cannes qui fait son académie, puis tout le monde dit aussi bien que les universités qui ont pignon sur rue. Voyez.
Juste une petite remarque. Sur le public, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois qu'on a tous un problème, nous, enseignants. En tous les cas, c'est quand j'ai des élèves en face de moi, des étudiants, je ne suis pas certain qu'ils aient tous le même niveau. Alors, on a beau recruter à des niveaux licence quand on veut faire du master 1, du M1, etc. On ne sait pas ce qu'ils ont exactement en crâne. Quand on est sur des grains très fins, alors là, Salman Khan, pour le coup, a fait un truc qui est remarquable dans cet ordre-là. On est capable de travailler sur les prérequis et de mettre l'étudiant en posture, de savoir s'il a bien poursuivre tel cours ou tel grain, le prérequis nécessaire. Alors, si vous allez sur le site de Cannes, vous verrez, dans le domaine mathématique notamment, c'est extraordinaire. Il a une carte des connaissances hiérarchisée et vous êtes capable de savoir si vous voulez suivre tel grain, tel cours, on va dire. Est-ce que vous avez les prérequis? Sinon, vous remontez sur le grain supérieur, etc. Et donc, vous êtes capable de remonter sur une chaîne de connaissances comme ça, préalable, et de vous faire un parcours. Moi, je pense que la révolution, elle est là. Elle est dans la personnalisation de l'enseignement. Et c'est la tendance pour bien d'autres domaines.
C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas un hasard si les MOOC marchent massivement sur les questions d'informatique,
voilà,
pour le moment.
Exactement.
Bon, parce que c'est le premier, le plus près, le plus rapidement fait. Mais il est évident qu'on n'a pas les mêmes problèmes dans tout un tas d'autres disciplines, quoi. Et donc, on voit déjà les problèmes émerger avec les autres où ça ne passe pas de la même façon.
Christophe Day.
Merci. Bon, j'ai vu que nous étions tous dans un élan à espérer un redressement éducatif, ce qui ne passera peut-être pas par un ministre, enfin en tout cas, il faut peut-être le souhaiter. J'ai une interrogation. Vos propos, alors sur l'aspect, on va dire, éducatif, c'est très très pesé, on est parfaitement ravis. J'ai quand même une interrogation. Vous avez l'air de savoir ce qu'il faut absolument faire pour faire de bons élèves. Est-ce que les entreprises ont envie de bons élèves? Moi, j'ai un doute extrêmement sérieux. On est dans une société dite de la connaissance, on n'a jamais fabriqué autant d'analphabètes et d'illettrés. On n'arrête pas d'embaucher des bacs plus 8 pour leur faire des jobs de bac moins 2. Et je suis absolument interpellé par le fait qu'il faut absolument faire toujours ce qu'il y a de mieux. Et là-dessus, vous avez plein de bonnes idées sans doute, mais est-ce que ce n'est pas une vision un peu élitiste? Donc ça serait une première question. L'autre aspect, c'est quand même l'incroyable mondialisation dans laquelle nous sommes sur tous les sujets et pourquoi pas sur celui-ci. Et là, il me semble, même si Daniel Kaplan en a beaucoup parlé, il y a quand même quelque chose qui échappe un petit peu. Cette puissance-là n'a rien à faire, mais vraiment rien à faire de savoir si ça va marcher ou pas et s'ils ont à faire des bons élèves ou pas. Est-ce qu'on a besoin de créer des millions et des millions de postes de travailleurs de la connaissance? La réponse est oui. Comment on fait pour former des millions et des millions de gens? Probablement, ça serait un peu de la soupe, mais c'est probablement ce que les gens attendent, les gens, les élèves en partie, et puis aussi les entrepreneurs. Donc ça, c'est un aspect. Et puis enfin, peut-être, un élément que vous n'avez pas évoqué, on sait tous le salaire de certains professeurs américains, certaines stars. On peut se douter qu'un peu comme les joueurs de football, on a vu les prix s'élever parce qu'il y a des moyens financiers qui s'agrègent. Très probablement, les MOOC sont aussi un moyen, peut-être, de faire monter encore les prix de certaines stars. Et ça, c'est encore un phénomène qui auto-entretient. Et d'un certain point de vue, si vous voulez, on a vu ça dans tellement de domaines qu'on se demande quand même pourquoi on traite ce sujet-là comme une exception, parce que finalement, ça ressemble à tellement d'autres choses qu'on a vues tellement bien.
Voilà un discours radical qui décale un peu, c'est bien. Sur l'idée de la vision élitiste, au bout du compte, la question que vous posez, c'est de dire finalement, est-ce que les entreprises s'intéressent réellement à cette économie de la connaissance qu'on a mis en valeur depuis Lisbonne en 2000? Est-ce que vraiment ça les intéresse, quoi? On va un petit peu pour résumer ça. Je dirais que je pense que vous avez raison pour une bonne part, c'est-à-dire qu'il y a un processus de division du travail aussi et d'accélération des changements qui fait qu'au bout du compte, on est sans doute trop formé très souvent dans cette affaire-là. Mais en réalité, on voit bien en même temps que la vitesse des changements est un des critères qui oblige justement à avoir des formations de base qui sont apparemment surdimensionnées. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait dans mes formations, effectivement. J'aurais toujours dit, bah oui, évidemment, vous vous dites, pourquoi est-ce que j'apprends les concepts? Il n'y a qu'à apprendre la recette et puis c'est bon. Non, je leur disais, bah oui, mais si vous avez la recette, c'est très bien, ça marche pendant 3 ans, 4 ans, et puis après, terminé. C'est sorti parce qu'on a changé de mode, on a changé de système, on a changé de logiciel, etc. Si vous voulez vous-même, du point de vue du salarié, du point de vue de celui qui se forme, être capable de ne pas rester complètement enquisté, j'allais dire, coincé dans les qualifications qu'on vous propose, dans les postes qu'on vous propose, il faut que vous ayez un peu de marge. Et je pense, y compris, que les entreprises en ont, d'une certaine façon, besoin. Alors le problème, c'est vrai, c'est qu'on peut difficilement anticiper des réadaptations continues Et donc, nous, par exemple, ce que l'on fait, effectivement, dans nos programmes, si je vous dis ce que je vous racontais sur les programmes qui consistent à former aussi à une forme d'incertitude, à vous mettre en situation, c'est des choses très pratiques. En l'occurrence, c'est vraiment très pratique. Ça a un lien direct avec les situations que les gens vont vivre dans leur travail. Mais effectivement, ce n'est pas tant à la formation initiale que ce serait décisif. Ce serait vraiment dans la formation continue. Et je pense que pour les MOOC, il y a une vraie piste pour ça. Alors là, vous voyez, je prends dans l'autre sens. C'est-à-dire que oui, les MOOC, je suis persuadé, il y aurait quelque chose à faire pour la formation continue. Et il y a sans doute un vrai business model pour ça. Parce que les gens ne peuvent pas être à l'université parce qu'ils sont pris sans arrêt. Parce qu'ils ont quand même une motivation à apprendre qui se comprend quand on veut changer de qualification, changer de poste, etc. Évidemment, les technologies qu'on offre, on peut faire les mêmes critiques que celles que j'ai faites jusqu'ici. C'est vrai, ça peut être un peu infantilisant, etc. Mais quand même, l'enseignement en ligne, de ce point de vue-là, a des avantages à jouer. Et à ce moment-là, ça permet précisément de réconcilier cette inadaptation qui est nécessaire, quasiment, j'allais dire, entre l'enseignement initial et les besoins des entreprises, et puis ensuite de le rattraper d'une autre façon. Mais à condition aussi quand même qu'il y ait toujours ce cadre-là, qui n'est pas forcément de la surqualification, qui sont des cadres nécessaires pour pouvoir évoluer. Après, l'évolution, vous pouvez la faire, effectivement, en prenant des cours en ligne, etc. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à raisonner dans les deux sens de ce point de vue-là, et surtout à ne pas penser qu'une fois qu'on a fait quelque chose en formation initiale, l'affaire est réglée, et puis on en a pour 40 ans, ça. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de chances de survivre dans le monde dans lequel on est.
Peut-être un point sur des expériences que moi je vois aujourd'hui qui sont assez nombreuses en France et ailleurs. Parce que je pense que l'enjeu, en effet, n'est pas seulement celui de la formation d'une élite qui sait tout, etc. Quand on travaille aujourd'hui avec les écoles d'informatique dont je vous parlais, que ce soit 42, Simplon, la Web School Factory, etc., alors une de leurs caractéristiques principales, c'est qu'ils prennent, y compris, des élèves qui n'ont pas le bac. Alors, sur 42, la méthode de sélection sera probablement en fait hyper sélective d'un point de vue social. Parce qu'elle est dans sa violence et dans sa brutalité, elle va probablement récompenser ceux qui ont d'énormes compétences sociales et de leadership, etc. Mais les deux autres, ce n'est pas le cas. Il y a pas mal d'expériences comme ça également à l'international. Et en fait, en revanche, en recrutant ces élèves-là, la dernière chose qu'ils vont faire, c'est de faire de la pédagogie comme avant, puisque c'est ce qui fait que ces élèves ont quitté avant le bac, voire même ont considéré qu'ils étaient vraiment nuls et que ça ne pouvait pas y arriver. Donc, ils vont mobiliser des choses dans lesquelles, enfin, des méthodes complètement nouvelles, enfin, ou en tout cas nouvelles, complètement inhabituelles dans ces domaines-là. Dès la première année à la School Factory, ils font des masterclass à l'envers, où c'est les étudiants qui mettent sur le grill des patrons d'entreprise, ils font des trucs... Le but de ça n'est pas forcément qu'ils connaissent, que ce soit les meilleurs théoriciens de l'informatique du monde. Le but, c'est que ce soit des gens qui ont des bases relativement solides, qui savent apprendre et qui savent mener des projets, qui savent collaborer avec d'autres gens. Et d'ailleurs, c'est une école qui délivre un double diplôme designer-gestionnaire, designer-informaticien, gestionnaire-informaticien. Bon, voilà. C'est des choses comme ça qui sont plutôt en jeu. Ensuite, quant aux besoins des entreprises, d'abord quand même, les entreprises aiment bien des gens qui savent un petit peu faire des choses, qui sont un petit peu opérationnels, etc., souvent, pas forcément à tous les niveaux. Et puis, vous avez quand même la responsabilité de former aussi des gens qui, eux, vont vraisemblablement dans leur vie faire 15 métiers dans une dizaine d'entreprises avec des périodes compliquées de chômage ou de multi-emploi ou de machin, etc. Donc, vous avez aussi de la responsabilité de leur permettre à eux de vivre une vie qui sera beaucoup moins linéaire que celle que la quasi-totalité d'entre nous avons vécue. Et ça, c'est quand même aussi un point à avoir en tête dans l'enseignement.
Donc, c'est un créneau pour le CNAM aussi, formation continue.
Ah oui.
Je me disais, c'était pour ça que le CNAM s'intéressait au sujet.
Merci. Pierre Delors, Association nationale des DSI et enseignant à BinParisTech. Est-ce que vous pensez, alors on peut appeler ça Big Data ou une certaine densité numérique, ça ne va pas déferler sur les MOOC, c'est-à-dire qu'en captant tous les gestes des étudiants, on peut soit aider l'enseignant à améliorer son cours, soit peut-être faire de la recommandation de parcours à l'étudiant.
Oui, tout à fait. Non, mais je pense qu'en dehors des fantasmes qui sont annoncés, parce qu'il y a beaucoup de programmes, absolument. Bon, on croit qu'on va comprendre un processus d'apprentissage, et y compris être capable de suivre à la trace et de revendre et de traiter tout cela. C'est un peu la logique de la NSA. On capte, puis on verra bien, quoi. Bon, au bout d'un moment, bon, c'est un peu le problème. Cela dit, ça c'est la picture, je dirais, en disant les limites de l'affaire de ce type de fantasme. En revanche, c'est vrai que ceux qui ont pratiqué des LMS du genre Moodle, etc., savent bien que savoir que les étudiants se connectent de telle façon, à telle heure, et ils n'ont pas vu les documents, etc., c'est quand même très utile, et c'est vrai, mais du point de vue pédagogique. Alors après, l'autre logique, ça consiste à dire on produit des datas et on fait de l'analyse, qu'on revend, etc. Ça, c'est effectivement un modèle économique qui a été esquissé, mais Philippe peut-être pourra dire plus là-dessus, mais bon, c'est quelque chose d'assez limite. En revanche, le fait d'avoir un feedback opérationnel et assez pointu selon certaines activités pédagogiques, etc., je pense que oui, c'est assez intéressant. Mais c'est intéressant non pas tant dans la masse, sauf que pour les MOOC, évidemment, vous traitez la masse. Mais je suis persuadé que c'est intéressant au quotidien, y compris avec les enseignants. Donc avoir cette culture des indicateurs, des traces qui vous permettent de réajuster et de comprendre ce qui est en train de se passer, je trouve que c'est intéressant. Au niveau des MOOC, on va avoir souvent des choses assez massif, on aura du mal à faire de l'analytics très fin, je pense. Hein. Et je suis pas sûr qu'en plus les gens soient très intéressés, en réalité. Parce que c'est quelque chose, la question des qualifications, ça veut dire qu'on vend effectivement des qualifications et qu'on est capable de suivre quelqu'un en dehors d'un cours, parce qu'avec un cours, qu'est-ce que vous avez appris ? Pas grand-chose. Tout cela, ça me paraît un petit peu, disons, une façon de vendre Coursera et Udacity, notamment aux investisseurs, mais pas beaucoup plus. Mais bon.
Je suis d'accord, on est aujourd'hui beaucoup dans la promesse sur ce sujet-là. Et quand on regarde un peu, là aussi, les discours, c'est en général, c'est pas le côté pédagogique qui est souvent impacté, c'est plutôt le côté productivité de l'enseignement. Donc on va chercher à faire des gains de productivité sur des plateformes, mais ça reste en tous les cas de la promesse aujourd'hui.
Merci. Alors Marc Mousseli, donc, je fais de l'enseignement pour adultes. J'ai fait mon premier cours pour adultes en 1964. Et depuis, j'en ai toujours fait, quoi. Alors, je pense que les MOOC, c'est tout à fait passionnant. J'ai pas eu le temps tellement d'y aller. Je voulais le faire, mais je suis pas allé comme Philippe regarder ce que ça donnait. Mais dans ce qu'ont dit surtout Philippe et Dominique Boulier, on a parlé d'étudiants. Alors, on s'adresse aujourd'hui à une population qui est une population, en fait, que j'appellerais des internautes apprenants. Alors, apprenants dans le sens où ils sont plutôt en poule qu'en push, hein, puisqu'on sait bien qu'on n'enseigne pas. Ce sont les apprenants qui apprennent, s'ils veulent. Donc, ils sont plutôt en poule qu'en push, et ils sont en poule avec, dans les pattes et dans la tête, un certain nombre de, presque de décennies, d'Internet. Avec tout ce que ça suppose, par exemple, de stratégie pour s'informer. Hein. Enfin, tout le monde fait comme moi. Hein. Quand je tombe sur un article qui m'intéresse et qui est payant, je cherche le contournement pour aller le chercher ailleurs où il ne sera pas payant. Hein. Par exemple, si c'est un article américain, il n'y a pas de problème, c'est sur le site du prof. Pour les autres, c'est parfois plus compliqué. Bon. Donc, chaque étudiant, chaque apprenant a donc des techniques pour s'informer, et donc d'une certaine façon pour apprendre, qui sont différentes de celles des étudiants classiques traditionnels. Et même pour les étudiants classiques traditionnels, si on reprend ce qu'on a fait pendant des années au CNAM et ailleurs, quand on parle de cours, évidemment, il y a des cours, mais il y a aussi des travaux dirigés, des travaux pratiques, des conseils personnalisés, des stages, etc., etc. Donc, il y a différentes façons d'approcher la connaissance et d'apprendre. Est-ce que le MOOC, tout compte fait, ce ne sera pas un instrument ou une méthode parmi beaucoup d'autres qui trouvera une place limitée, hein, de la même façon que les travaux pratiques ou les travaux dirigés avaient leur place dans un enseignement beaucoup plus large. Deux questions, donc. La question sur les apprenants, est-ce que certains fabricants de MOOC sont partis de là, sont partis de ces apprenants internautes? Et deuxième question, est-ce qu'il ne faut pas avoir dans les MOOC quelque chose de relativement limité qui prendra sa place dans tout le reste?
Bon, moi, je ne répondrai pas à la première, mais plutôt à la deuxième. J'irai plus loin que toi encore. Je pense que ce que les MOOC nous renvoient, c'est une manière différente d'apprendre aujourd'hui dans notre métier d'enseignant, dans la manière dont on le fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on oppose encore beaucoup enseignement traditionnel et MOOC, ou enseignement à distance, etc. Quand on voit les réflexions que nous, on peut avoir en interne, c'est avant tout, enfin pour les, en tout cas les premiers d'entre nous, c'est avant tout la manière dont on enseigne qu'on interroge. Et on se dit, ben oui, mais voilà, l'appétence montrée par les gens qui sont en ligne, ils sont qu'en ligne, on a la même appétence avec nos élèves qu'on a en présentiel, et c'est peut-être une chance et une opportunité pour nous d'enseigner différemment, mais sans opposer systématiquement le en ligne du présentiel. Enfin, ça pue beaucoup de sens quand on y pense bien. Bon, l'aspect massif à part, bien sûr.
Oui, c'est vrai que les méthodes d'apprentissage personnelles, enfin, sont personnelles avant tout, quoi, de ce point de vue-là. Et il y a un terme, effectivement, qui n'a pas été prononcé, c'est celui d'attention. Vous connaissez des travaux qui existent sur l'économie de l'attention, etc. Moi-même, je me suis beaucoup intéressé à cette question-là. Et c'est un élément très important qui explique, y compris, la façon dont les MOOC sont structurés et dont on est capable, précisément, de se dire on va maintenant adopter des modalités de transmission qui sont quand même plus adaptées à ce qu'on connaît, à l'activité ordinaire qu'ont les étudiants, parce que, précisément, eux-mêmes se composent leur parcours avec tout un tas d'éléments qu'ils vont chercher de briquet de broc dans le net. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça aussi que la réduction de la durée, le support vidéo, etc., ça rentre dans une culture, autrement, qui est diffusée parmi les apprenants eux-mêmes. d'une façon ou d'une autre. Et il y a une vraie compétition de l'attention, vous le savez très bien, et que, y compris, c'est pour ça que Philippe a raison de dire que ça reboucle sur notre façon de faire cours en présentiel. Moi, j'ai structuré mes cours maintenant en séquence de maximum 10 minutes. Et on change d'activité totalement. Et donc, il y a un qui fait une chronique, après il y a un autre, après on fait un débat. Et puis, enfin, tout, je les ai réadaptés, je fais du MOOC en présentiel, si vous voulez. Non, dans le sens où je veux dire, je segmente, je le granularise, parce que je me suis rendu compte que sinon, c'était terminé. Je n'arrivais pas à capter. Alors après, on se dit, bah oui, mais c'est parce que tu n'es pas assez bon. Oui, bah d'accord, peut-être, je ne suis pas assez bon. Bon, d'accord. Mais le problème, c'est qu'effectivement, même quand on a l'impression qu'il y a un public, vous avez beaucoup de gens qui vous écoutent, si vous mesuriez l'attention des gens, vous verriez que boum, et chute à partir de 6 minutes. Et ça, c'est systématique, en présentiel comme en ligne. Donc le problème, c'est surtout la consigne, justement, ne faites jamais de vidéo de plus de 7 minutes. Moi, j'avais fixé ça il y a 5 ans à mes étudiants, y compris celles que je faisais aussi, c'est des 7 minutes, mais ça, c'est vérifié. Et là, on a un vrai problème de continuité de l'attention, d'une part, et puis de concurrence, c'est-à-dire d'une modalité. Je pense que vous avez tout à fait raison de dire qu'au bout du compte, on va arriver à des recompositions qui vont faire quelque chose, ce qu'on appelle maintenant le terme anglais, évidemment, c'est « blended learning », ce qui permet effectivement de dire on va exploiter les supports que l'on produit, c'est-à-dire que l'investissement qu'on fait dans la production des contenus, on va peut-être le réutiliser dans d'autres environnements. Donc les grains que l'on produit, comme je disais, on peut les recycler dans des situations d'apprentissage en présentiel pour des prises, enfin en réalité, qui comportent des parties à distance, c'est-à-dire de prise de connaissances par les étudiants, et on transforme la classe, c'est pas tout à fait forcément la flip classroom, mais quasiment, où on fait justement une classe qui sert à autre chose, en se disant la prise de connaissances peut avoir été faite sur certains points au moins en ligne, et donc c'est ce mix-là qu'il faut réinventer et on va tous explorer ça selon les disciplines. Là, du coup, il va falloir bien s'adapter à des disciplines. Ce n'est pas du tout la même façon d'enseigner un travail philosophique ou à coder quelque chose. Je veux dire, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il y a des rythmes. Mais l'intérêt, c'est qu'on a maintenant de quoi granulariser tout ça pour rendre la recombinaison possible plus finement. Alors qu'effectivement, auparavant, on avait l'impression que c'était des gros blocs. Et puis voilà, il fallait prendre tout ou rien, quoi. Mais le travail qu'il y a à faire est aussi à d'évaluer tout cela, parce que nous sommes persuadés que nous expérimentons des choses qui, pour une bonne part, ne marcheront pas. Donc nous, on fait des tests sur nos MOOC avant de les mettre en ligne avec des étudiants, soit les MOOC à blanc, soit des séquences que l'on teste, effectivement, ergonomiques, de satisfaction, mais aussi de connaissances. Qu'est-ce qu'ils ont retenu de ce qu'on a présenté? Parce que sinon, ce n'est pas la peine. Et donc, à partir de ce moment-là, on a effectivement une logique de qualité. Quel est l'avantage du MOOC par rapport à tous les autres? C'est qu'on est obligé d'expliciter tout ce qu'on fait. Donc, l'enseignement, autrement, il y a des enseignants qui étaient excellents, mais ils n'avaient pas besoin de dire ce qu'ils faisaient, parce que, bon, ça marchait comme ça. Et puis, on ne pouvait pas le transmettre, on ne pouvait même pas échanger, parce qu'ils ne savaient pas dire. Moi, j'ai fait des observations comme ça en enseignant, en disant, mais pourquoi tu as choisi, là, à ce moment-là, d'interroger, hein? Je n'en savais pas dire, mais il le faisait bien, quoi. Bon, et le problème, c'est que maintenant, on peut éventuellement constituer une communauté d'enseignants qui peut apprendre les uns des autres parce qu'on explicite. Je ne dis pas que c'est la recette à tout, hein, c'est la solution à tout, ça certainement pas. Mais au moins, ça fait progresser collectivement. Et de ce point de vue-là, l'environnement concret, indépendamment des MOOC, le fait que le numérique oblige à expliciter, c'est le bas même du numérique, à partir de ce moment-là, il va nous rendre des services pour cela, du point de vue de la qualité de nos enseignements en général.